Salut tout le monde et bienvenue à une autre édition de Sortie de zone. Ici Jérémy Filoza, en remplacement de Jérémy Rainville qui prend des petites vacances en France. Il est parti jouer au hockey, ligue de garage, parce que les ligues de garage, je sais, sont pas assez bonnes. Il est parti jouer en France.
De la torture!
Je sais pas c'est quoi le calibre de hockey là-bas, là, mais regarde, il s'est bien mérité. Il travaille très fort, notre ami Jérémy Rainville. Donc, on va lui donner la semaine de congé. À mes côtés, vous venez de l'entendre, Guillaume Lefrançois de La Presse. Salut Guillaume.
Salut Philo.
Ainsi que Richard Labbé de La Presse aussi. Salut Richard.
Salut.
Et aussi Stéphane Waite, notre analyste. Okay. Salut Stéphane.
Salut les gars.
Alors les gars, autre défaite du Canadien hier soir par la marque de 4-0. Je dois vous dire avec beaucoup de tristesse que je n'ai pas pu regarder ce match de 4-0.
T'as raté quelque chose.
J'ai lu ensuite parce que malheureusement j'étais dans l'avion hier soir et puis je n'ai pas pu voir le match et ça s'est bousculé beaucoup aujourd'hui. Donc j'ai pas eu la chance de revoir.
En raison de
un autre sujet dont on parlera pas ici.
Les chandails bleus du Canadien, je pense.
Ouais,
tu voulais parler de ça, ouais, c'est ça.
Chandails bleus poudre. Reste que le Canadien hier encore une fois s'incline par la marque de 4-0 contre Seattle, le Kraken. Et malheureusement, encore une fois, c'est un début de match très difficile. Et on dirait que c'est semaine après semaine, on se répète, match après match. Encore une fois, l'adversaire prend les devants assez rapidement. On se retrouve avec un total de tirs au filet de 15-1 là, au milieu de la première période ou à peu près. Richard, je vais commencer avec toi. Un premier commentaire sur cette rencontre.
Ben, le premier commentaire, c'est que je suis surpris que on pointe un petit peu Martin Saint-Louis du doigt, mais pas beaucoup. Et souvent, quand t'as des mauvais débuts de match comme ça à répétition, on parle de club mal préparé. Et souvent, quand on parle de club mal préparé, on pointe qui du doigt? Le coach. L'an passé, souvenez-vous, avant que lui arrive ici, Dominique Ducharme, il y a des vétérans à un moment donné qui ont dit on n'est pas prêt quand le match commence. Petite flèche à Dominique Ducharme, ouais, structure, tout ça, bon. Puis là, je le dis pas en voulant dire que c'est le temps de mettre Martin Saint-Louis dehors dans deux minutes puis trouver quelqu'un d'autre. C'est pas ça que je dis. Je veux juste dire qu'éventuellement, faut comprendre une chose. On a parlé d'apprentissage de tout le monde. On a parlé de Slavkovski, 18 ans en première année. Il y a plein d'affaires de même. À un moment donné, on avait 5 recrues à la ligne bleue. On a aussi un coach recrue derrière le banc du côté du Canadien de Montréal qui est en apprentissage également. Il y a des fois que ça paraît, puis je pense que ça commence à paraître un petit peu.
Ben, Stéphane, quand on parle justement des débuts de match, et là, on parle beaucoup du manque de préparation, je me demande si des fois, c'est peut-être pas un manque de motivation. Est-ce que un entraîneur qui fait un bon speech de début de match, ça peut avoir un impact, ou c'est vraiment, selon toi, une question de préparation?
Ben, c'est une question de préparation, puis un coach peut pas arriver à chaque match pendant 82 matchs, puis avoir le speech, là, le speech que...
De Herb Brooks.
De Herb Brooks, exactement. C'est à lui que je pensais. Tu peux pas avoir ça 82 matchs. Donc, à un moment donné, la responsabilité devient aux joueurs. Et puis, les coachs vont tout faire, la préparation, le vidéo, le pre-scouting, tout ce que tu as à faire. Et puis, à un moment donné, quand le coach sort de la chambre, c'est aux joueurs à prendre charge de cette chambre-là. Et puis, c'est arrivé souvent, moi, dans le passé, avec des coachs d'expérience, des coachs avec, surtout à Montréal, c'est arrivé avec Michel Therrien puis avec Claude Julien, où ce que les coachs avaient fait une bonne préparation, et puis, mais on sortait pas. Et puis, à un moment donné, mais tu te poses des questions, puis tu te dis, OK, c'est quoi qui se passe dans cette chambre-là quand on sort? Et puis, les leaders, ils se passent quoi? Et puis, ça, moi, c'est là mon interrogation. Et puis, c'est sûr qu'en ce moment, là, en ce moment, t'as un Monahan qui n'est pas dans la chambre, c'est ça fait mal. Un Gallagher qui n'est pas dans la chambre.
Les leaders sont jeunes, là. Ouais, ils ont pas beaucoup d'expérience.
Stéphane vient de dire un mot important, leader. Mais Stéphane, même si Monahan était là, c'est pour vrai, il vient d'arriver, là. T'sais, je sais que sa production manque, mais on peut pas dire que c'est un vétéran qui est là depuis des années, là.
Oui, mais quand il était là, le premier...
Oui, ça faisait une différence.
Ça faisait une différence. Et puis, ça pour dire que je peux pas pointer seulement le coach. Le coach, oui, il apprend. Lui, ici, il va dire, OK, on a peut-être quelque chose qui cloche dans notre préparation au niveau du coaching staff, peut-être. Mais il y a une grosse partie qui revient aux joueurs. Parce qu'à un moment donné, c'est aux joueurs à prendre la chambre quand le coach sort de là. Et puis, je l'ai vécu souvent, ce problème-là.
Mais c'est drôle, tu parles de Monahan, ça va là où j'allais. Tu sais, une des choses qu'il ne faut pas oublier avec Monahan, là, c'est que ça fait en sorte que tu as Dvorak, deuxième trio, Evans, troisième trio, et Jonathan Drouin au centre plutôt qu'à l'aile. Et plus je regarde Drouin aller au centre, plus je me dis que ça fonctionne vraiment pas, qu'il y a des problèmes de couverture défensive quand son trio est sur l'Atlas qui sont vraiment terribles. Tu sais. Puis hier, justement, son trio était là pour deux... pour deux débuts en première période, pour deux pénalités aussi que le Canadien a prises dans son territoire, parce que le Canadien était constamment dans son territoire quand ce trio-là était sur la glace. Et en plus, déjà que c'est ça, tu sais, déjà que je suis pas convaincu que c'est un joueur de centre, en plus, on lui met Mike Hoffman comme allié. Hoffman qui devait supposément revenir avec le couteau entre les dents. Puis là, ben, je vais te faire plaisir, Stéphane, mais ben, c'était pas vraiment le cas. Puis c'était
mais il est pas dans sa bonne séquence. Là,
je non, mais
ça s'en vient. Ça s'en vient.
Mais écoute, là, j'ai comme l'impression qu'on, en tout cas, durant la période des fêtes, là, on a vécu des moments qui ont beaucoup ressemblé à ce qu'on a vécu l'année passée. C'est qu'on est vraiment en manque de solutions. Il n'y a aucune solution. On n'a pas vraiment d'espoir de gagner des matchs. Là, il y en a eu un bon là, contre les Blues de Saint-Louis, mais si tu disais, je ne pense pas qu'on est au stade de commencer à parler d'un congédiement d'entraîneur, puis je suis vraiment d'accord avec toi, mais tout ça a rapport avec les attentes.
Ouais.
Les attentes ont été revues à la hausse
parce qu'à un moment donné, le club jouait pas mal mieux que qu'il était en réalité. Alors, les gens commençaient à rêver à ça. Je me souviens, puis moi-même, je me suis fait prendre au jeu. Je regardais le classement, puis ils sont juste à 3 points, ils sont juste à 4 points, ils sont juste à 5 points. T'sais.
Mais ça, c'est quand l'équipe était en santé aussi.
Et quand tout allait bien, t'avais David Savard qui jouait comme un Norris, t'avais les deux gardiens qui jouaient comme des Vézina.
Je veux dire,
à un moment donné, ça allait pas durer. C'est plate. Mais là,
on parle de deux problèmes. Là, on parle de préparation de match. Puis là, Jérémy vient de parler de ça, on manque de solutions. Ça, c'est deux problèmes différents. Préparation de match, écoute, les joueurs font partie de ça, puis ils doivent se prendre en main. Mais des solutions, ça, c'est le côté des coachs. Si on manque de solutions, c'est sur les coachs. C'est là que Martin Saint-Louis et son staff qui manque d'expérience apprennent.
Ça apprend, oui, puis c'est là que ça apparaît. Ouais.
Apprennent à la dure.
Ouais.
Et Guillaume,
parce qu'un coach d'expérience a vécu ça, des situations de même. Mmh. Puis ils ont des solutions parce qu'ils l'ont déjà vécu.
Exact. Donc, il va falloir être patient. Il va falloir être patient avec l'entraîneur aussi. Mais on a de la difficulté à mettre le doigt sur comment ça se fait que tu peux sortir contre les Blues de Saint-Louis, avoir un si bel effort, et ensuite de ça, tomber complètement flat.
Exact. Mais en fait, ce qui est aussi particulier, tu sais, je parlais du quatrième trio tantôt, du trio de Drouin. En fait, c'est de voir aussi à quel point ça variait d'un trio à l'autre. Ça a parti avec le premier trio, justement, le trio de Suzuki, qui a eu une première présence épouvantable. 1 minute et demie, ça a de là, ça a pas touché à rondelle ou à peu près. Et après ça, ben ça, t'avais également donc le quatrième trio. Mais les deux autres trios qui sont pas des trios qu'on attend nécessairement, qui sont celui de Dvorak et celui d'Evans, eux, pourtant, réussissaient quand même à tenir leur bout, à faire pencher l'aiguille du bon côté, à être plus en zone offensive, tout ça. Moi, c'est là aussi que j'ai un peu de misère à comprendre. C'est sûr que oui, la profondeur, je pense, le manque de profondeur, il est pour quelque chose, parce que c'est ça. Je reviens au quatrième trio, mais tu sais, avec une formation en santé, je pense que Hoffman est dans les gradins. Pezzetta, je veux dire, il travaille fort, là, il n'y a aucun doute, mais des fois, il travaille mal. Il y a une différence entre travailler fort, travailler mal. T'as Jonathan Drouin qui se retrouve dans une position qui n'est pas la sienne. Ça, c'est des trucs qui coûtent à l'équipe.
Donc. Et là, Martin Saint-Louis, tu sais, qui a été quand même, on doit se le dire, en grande partie, assez généreux avec nous, là, avec les médias, la saison dernière, puis même au début de cette saison et tout ça. Là, tu sais, de plus en plus, la mèche un petit peu plus courte et tout ça, mais là, c'est parce qu'il reste 3 mois de hockey à jouer. Répondre aux questions matin et soir.
Ce que j'ai dit tantôt, que nous, on regardait le classement, puis on voyait le Canadien à un moment donné dans le portrait, lui avec, il le voyait, là.
C'est ça.
Puis à un moment donné, lui avec, il s'est dit, est-ce qu'on est meilleur, peut-être, que je pensais? Tu sais, je pense que ça a surpris tout le monde, dont probablement lui. Puis on est tous tombés dans le piège, on sait tous, puis je suis sûr que Martin Saint-Louis, mais il dirait pas, mais c'est sûr que lui, quand il a vu les résultats en novembre, il devait se dire, coudonc, je pense qu'on va être meilleur que ce que j'avais prévu. Et là, ben, lui-même se met peut-être à avoir des attentes qui sont différentes. Alors, c'est pour ça que Martin Saint-Louis, je pense que présentement, il est, la mèche courte, ce que tu disais, mais je pense qu'il est surtout déçu. Je pense qu'il s'imaginait que le club allait peut-être pouvoir garder un certain rythme de victoire. Là, il voit bien que ça dérape. Et je pense que présentement, il est très, très déçu en premier.
Ben, c'est sûr. Puis là, tu sais, il a parlé de passager, je pense, à plus d'une reprise, deux fois.
Encore après le match.
Le mot en paix.
Le mot en paix, les passagers. C'est drôle parce que ce matin, j'étais dans l'auto avec ma conjointe. Puis là, elle a entendu ce mot-là, passager. Puis elle a dit, c'est quoi l'affaire de passager? Là, j'y ai expliqué. Elle a dit, OK, je comprends. Justement, on était dans l'avion hier soir pendant plusieurs heures. Fait que t'es assis, puis c'est rien.
Il y en avait des passagers.
C'est ça, exactement. Nous étions
les autres sont
les
pas assis, ils sont sur des patins, mais il y en a une couple qui font rien pareil.
Je vais faire une petite parenthèse sur les passagers. On va faire une petite pause. Geoffroy va nous lancer à la pause, mais au retour de ceci, je vais faire un lien entre les commentaires de Martin Saint-Louis, les passagers, mais aussi une réalité que les équipes de la Ligue nationale doivent vivre aujourd'hui, les partisans aussi, et qui n'est pas vraiment évidente. De retour à sortie de zone, et avant la pause, on parlait de cette expression, les passagers. Et tu sais, quand un entraîneur se donne la peine à deux reprises de parler de passagers dans son équipe, c'est parce qu'il croit vraiment, là. Ça, c'est qu'est-ce qu'il dit publiquement. Imagine-toi ce qu'il se dit derrière les portes closes. Et depuis une vingtaine d'années, quinzaine d'années peut-être, je dirais, lorsque le plafond salarial est arrivé, on a un peu menotté les directeurs généraux. Et là, à mon époque, je recule dans les années 80. Là, quand une équipe, ça fonctionnait pas, le directeur général levait le téléphone, trouvait une autre équipe.
Ah, puis t'envoyais le gars dans la Ligue américaine, puis merci, bonsoir.
Ça, il y a des règlements qui contreviennent à ça. Mais tu pouvais procéder à une transaction, tu dis, écoute, je te donne un élément qui fonctionne pas ici, donne-moi un élément qui fonctionne pas. Peut-être qu'un changement de scénario...
Michael Camilleri et René Bourque.
Un échange
de problèmes.
Ah, mais ça, c'est pendant le plafond salarial, par contre.
C'est vrai. Bon point.
On peut aller chercher une petite étincelle, mais là, on se retrouve dans une situation, les gars, là, où dans n'importe quel autre business, ça arriverait jamais. C'est-à-dire que le bateau coule, puis toi, tu regardes le bateau couler, puis tu te dis, bon, moi, je fais rien, je le laisse couler. Parce que là, l'impression du partisan, c'est que c'est ça. Le bateau coule, puis là, tu te dis, bon, ben on fait rien. On va le laisser couler, puis on va le regarder. Mais là, tu as des gens qui paient des billets. T'sais, mon patron, Michel Tremblay, me disait hier, il dit, j'ai donné la première étoile aux partisans, parce qu'ils se sont présentés, puis ils ont quand même encouragé l'équipe, puis tout ça, parce que sur la glace, il n'y avait pas grand-chose, mais... veut pas, tu sais, on est à Montréal, puis les gens vont continuer de venir, puis les gens sont passionnés du Canadien, mais dans d'autres marchés, quand t'arrives à Noël, puis c'est fini, là.
Ah oui.
Hey, c'est long en tabarouette. Vous savez comme moi qu'une transaction, là, ça peut nous donner un spark pour deux semaines.
Ouais, mais là, c'est ça le problème, c'est que les règles maintenant font en sorte que c'est de plus en plus. Ça se fait. Mais c'est. Tu sais, là, parce que là, tu vas me parler de Dalton, c'est ça? T'allais-tu me parler de. Non?
OK.
Parce que, tu sais, tout le monde pointe ce gars-là du doigt, puis on peut pointer Hoffman du doigt aussi, le favori de Stephen Waite. Mais, tu sais, c'est sûr que Kent Hughes, c'est pas un magicien. Fait qu'il peut pas prendre un téléphone puis dire, regarde, prends Hoffman.
Moi, je blâme pas Kent Hughes. Ce que je blâme, c'est le système.
Mais c'est ça. Ouais,
le
système
est fait en sorte que...
Et les contrats sont garantis. Ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, si un joueur de la Ligue nationale de football est tout croche, OK, va-t'en chez vous, pogne tes affaires, bye, ciao. Le contrat n'est pas garanti, à moins d'être Tom Brady ou ces gars-là. Mais ici, les contrats sont garantis. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'espérer que quelqu'un, quelque part, te fasse une faveur.
Moi, je pense que
plus ce joueur-là.
Plus que jamais, depuis la pandémie et le plafond qui augmente pas, c'est que là, les équipes sont overloadées avec des contrats. Mm-hmm. Le plafond augmente pas. Fait que moi, j'ai pas de place. Toi, t'as pas de place. Lui, il a pas de place.
Ouais. Mais c'est un système qui fait en sorte de discipliner les DG. Et puis, je veux dire, le système récompense les DG qui sont prudents, qui planifient bien, puis qui donnent pas des contrats en panique, comme ce que Marc Bergevin a fait justement avec Mike Hoffman il y a deux étés. Ça, c'est, tu sais, je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir, tu sais. Puis, oublions pas que s'il y avait pas des règles strictes, tu sais, je pense que le système de la façon qui est fait et en étant aussi contraignant sur les rachats de contrats, par exemple, ce système-là fait en sorte que ça crée une certaine parité entre les équipes. S'il n'y avait pas ces pénalités-là sous plafond salarial, disons, là, pour des contrats rachetés, des choses comme ça, je pense que ça ferait en sorte que des organisations plus riches se permettraient davantage de parier sur des joueurs, puis les organisations plus pauvres ne pourraient pas se le permettre.
Le problème, c'est que là, tu pénalises l'équipe, mais tu pénalises aussi beaucoup les partisans. Parce que le partisan, Stéphane, je me trompe-tu? Parce que présentement, Stéphane, t'as un club qui est prêt à passer à d'autres choses, à liquider certains joueurs. T'as des joueurs qui sont probablement prêts à dire, écoute, moi, je suis prêt à partir quand que l'opportunité est là.
Quand vous voulez.
T'as des partisans, qui sont prêts à ce que certains gars changent d'adresse. Mais là, tout le monde est pogné à se regarder dans le miroir, mais il se passe à rien.
Mais je comprends pas. Y a-tu quelqu'un qui est surpris au Québec de ça? On savait tout depuis le début de la saison que ça serait une saison très difficile. On savait tout depuis le début de la saison que des Dadonov, des Hoffman, des Joe Drouin, on est pris avec, probablement jusqu'à la fin de la saison, puis qu'on attend de finir le contrat plus que d'autres choses. Je comprends pas pourquoi les partisans, tout d'un coup, là.
Je vais te le dire, Stéphane.
Mais c'est à cause du mirage.
C'est parce que l'affaire, c'est que dans les autres villes qui se tiennent debout en Amérique du Nord, ils ont aussi un club de la NFL, ils ont un club de basket. Fait qu'ils se disent, écoute, l'équipe de hockey cette année, c'est pas trop bon. Ouais. On va regarder le basket, puis l'année prochaine, on reviendra. Mais ici, on se tourne les pouces. Il n'y a pas de Canadien, on n'a rien d'autre à faire. Fait que
je sais. Bon, mais, on peut aller prendre une marche dehors.
Ça fait des années qu'on dit qu'il faut un jour, il va falloir que le monde, les médias et les partisans et la direction acceptent d'être mauvais pour quelques saisons pour devenir bon. Ça fait des années que j'entends ça.
Ouais, mais tu sais.
Là, on décide de le faire. Et puis encore, mais là, c'est encore. Bon, ben là, on va faire quoi? Le Canadien, la saison quasiment finie. C'est pas surprenant. Ouais, oui. Ça fait partie du pain, le grown pain.
Des douleurs. Mais Stéphane, par contre, le problème avec ça, c'est qu'être mauvais veut pas dire que tu vas être bon. C'est ça le gros problème. Les gens,
zéro garantie.
C'est ça, les gens s'imaginent que, OK, garde, c'est correct, on va faire une coupe de repêchage, puis après ça, check bien, là, dans 3-4 ans, on s'en va en finale. Pensons au sort de Buffalo, là. Je veux dire, Money, ouais. Eux autres, ben, pas ça. Pensons aux Oilers d'Edmonton, qui ont probablement le meilleur joueur des 10 dernières années.
Ouais. Oilers ont fini par se rendre en finale de CCS. Ouais, mais les sables, c'est le meilleur exemple.
Les Oilers, au moins, il y a un spectacle. Là, je veux
mais
dire,
en contrepartie, t'as des équipes comme Chicago qui s'en marché. T'as des équipes comme Pittsburgh qui s'en marché.
Ouais, mais c'est pas une garantie, c'est ça que je veux dire.
C'est pas une garantie, mais
à Chicago, ça a marché parce qu'il y avait un bon entraîneur des gardiens dans le temps.
C'est certain que ça part dans le net.
Ça a aidé. Mais tu sais, reste que veut pas ce que j'ai dit tantôt, puis le fait qu'on n'a pas d'autres distractions sportivement parlant au Québec, ça fait en sorte de mettre de la pression sur l'organisation en ce sens-là. C'est qu'on voudrait que le processus de reconstruction se passe plus vite que ce qui va prendre réellement. Puis là, je sais que je parle dans le beurre parce qu'on n'est pas dans une période de rachat de contrat, mais le propriétaire doit faire sa part. Parce que si le propriétaire qui a laissé le directeur général là, qui a embauché ces gars-là, Ken Hughes doit dire, écoute, là, moi, j'étais pas là dans le temps. Là. C'est pas de ma faute si ces gars-là sont encore là. Fais-moi une faveur, laisse-moi au moins en choisir un par année qu'on va racheter. Puis on va procéder à cette reconstruction-là un petit peu plus rapidement.
Ouais, mais ça veut pas dire que c'est au propriétaire que ça bloque non plus. Je veux dire, racheter un contrat, ça vient aussi avec des conséquences sous le plafond salarial. Ouais. Donc ça, c'est le bout qu'on connaît pas dans les discussions.
Mais il y en a là que ce serait pas compliqué. Là. Il reste un an.
Mike Hoffman, par exemple, c'est sûr que c'en est un. Si ça continue comme ça, est-ce qu'on va en venir là peut-être? Mais tu sais, je veux dire, disons, à voir comment le Canadien gère sa masse salariale jusqu'ici, ça donne pas l'impression que ça bloque de ce côté-là. Puis d'ailleurs, quand ça allait plus avec Carl Osner, ben Marc Bergevin a eu l'autorisation de racheter son contrat. Tout ça. Donc, tu sais, ça s'est quand même fait par le passé, puis Jeff Molson là-dessus n'a pas trop l'air de mettre les freins. Maintenant, il faudra voir. Là, c'est sûr que là, on arrive de deux années difficiles économiquement pour le Canadien. Donc, est-ce que ça bloque? Je ne sais pas. Mais c'est pas seulement une décision de propriétaire. Ça vient aussi avec des conséquences.
Difficile économiquement. À chaque année, ils sont dans le top 3 de Forbes.
Oui.
Ils ne sont pas dans la rue.
Non, exact. Mais ils ont fait quand même une saison à huis clos.
On pleurera pas pour eux autres.
Parce que je suis convaincu que Martin Saint-Louis, quand il y a des conversations avec Ken Hughes présentement, quand il parle de ses passagers, là, il doit dire, es-tu capable de m'en libérer au moins un ou deux?
Ouais, mais regarde, le 3 mars s'en vient, Jérémy, je te dirais.
Tu trouves?
Ben, écoute, ça.
C'est dans deux mois encore. Ça s'en vient. Fais-tu toutes les games au Centre Bell, toi?
Je vais en rater quelques-unes. mais le 3 mars s'en vient pour de vrai. Puis, regarde, je pense qu'on va du côté du Canadien de Montréal tenter le plus possible de prendre des passagers puis de les envoyer ailleurs. Si on peut avoir des choix de 14e tour, 25e tour, on va y prendre. Ça n'existe pas, on va les inventer. Mais je pense qu'on ça va arriver, pour de vrai, là, honnêtement. Même les gars qu'on dit incapables à passer, là, moi j'en ai vu des mauvais joueurs, puis on a fini par... Il y a des clubs qui sont capables de les passer pareil. Il y a des faveurs qui se font, ça, on l'oublie souvent.
Mais au pire, aller, c'est pas la fin du monde si on n'est pas capable de s'en débarrasser. Ces gars-là, cet été, c'est parti, c'est fini.
Mm-hmm. Ouais.
Donc, il en reste plus. C'est pas la fin du monde. L'important, c'est que ces mauvais passagers-là...
La seule... Ouais, non, vas-y.
Contamine
c'est
pas
ça.
Les jeunes.
C'est en plein ça que j'allais dire. Parce que mettons qu'il y a des gars qui seraient pas passés le 4 mars. Puis là, t'as encore des jeunes, effectivement, Stéphane, qui sont dans ce vestiaire-là. Tu veux pas que ça devienne un genre de...
contaminé. Puis les partisans, ils vont vivre avec l'équipe de samedi soir, peut-être pas que l'équipe de lundi soir. Et puis, j'étais là hier au Centre Bell et puis j'ai rarement vu une équipe se faire dominer de même en première période. Je me suis dit, oh my God, sais-tu les Kraken qui sont la plus belle merveille du monde ou c'est le Canadien qui est si pire que ça? Je pense que c'est un petit peu des deux. Mais ça revient toujours à la façon que tu perds, la façon que tu perds.
Oui, c'est sûr,
Puis, les partisans vont accepter, même si le Canadien aurait perdu samedi soir, le Canadien a donné un bon show. Ils se sont présentés, ils ont été impliqués, ils étaient préparés, ce qui n'était pas le cas hier.
Mais, tu sais, puis vous parliez de gars qui peuvent contaminer le vestiaire. Moi, je pense qu'on doit déjà commencer à regarder vers ça, là, parce que ça commence à être longtemps. Peut-être pas attendre à la date limite des transactions, mais je pense pas que l'équipe est équipée présentement pour dire « Hey, on a deux, trois bons espoirs en bas, on va y monter, puis les autres, on va tasser les vétérans. » On n'a pas de ça. Puis, tant qu'à moi, là, j'aime mieux être patient puis vivre avec les erreurs même d'un Anthony Richard. Montre-les, fais des erreurs, pas de problème. Il apprend, puis peut-être que c'est un gars qui va contribuer sur le long terme, mais ceux qui sont plus dans les plans, si on est capable de les laisser de côté, donnons la place aux autres.
Je pense que si tu dis à Kent Hughes, garde, je te donne des cartes magiques, là, tu as choisi non, trois
même,
noms puis débarrasse, il va le faire.
Même Martin Saint-Louis, s'il est capable de rentrer sur son
mais
plafond.
C'est ça. Non, mais je pense que vous allez être surpris. Je pense qu'au 3 mars, il va y avoir pas mal de départs, plus que vous pensez.
Ouais, pas mal de neige qui va tomber d'ici à ce temps-là.
Hier, les gars, là, je veux dire, je ne veux pas taper sur le clou encore, là, mais Hoffman, il vient de manquer deux games. Tu sors de deux matchs. Il revient, il est supposé de revenir avec le couteau entre les dents, comme qu'on dit.
Ouais.
Comme Armia et Dadonov ont fait justement depuis qu'ils ont été
dans les dents. Exact. Hoffman, hier, deux games qui étaient assis, moins trois. Un lancé au but. Je l'ai vu, moi, je l'ai regardé jouer hier, là. J'ai dit, my God, pauvre gars, il sait où il y a aucune idée qui fait sa place. Et puis, on peut taper sur le clou de Dadonov, mais Dadonov fait trois parties que son trio est le meilleur. Donc, au moins, lui, il montre quelque chose. Ça, je peux vivre avec ça. Donc, mais Hoffman, hier, my God, c'est pas drôle.
Mais tu sais, on parle d'envoyer Slavkovski en bas. Mais si c'est ça qu'on veut faire, là, ce qu'on vient de dire, c'est de tasser les vétérans, faire jouer les jeunes. On peut pas vraiment se le permettre, là, qu'il reste en haut et qu'il fasse des erreurs.
Ben, c'est ça, c'est parce que c'est ça, autre affaire. T'sais, à un moment donné, à force de dire, OK, on tasse du monde,
qui se prend des chandails. Martin, j'ai vu Martin, là, faire une coupe de tour de glace, ouais, là, auto,
ça, là. En plus, avec Gallagher, qui est blessé, puis là, ben, c'est ça, ça a sorti hier après le match, qui portait une botte protectrice. Donc, lui, c'en est un, visiblement, c'est peut-être pas une question de jour. Sean Monahan, qui en a encore pour deux semaines. En plus, il y a des blessés, donc ça met encore plus de pression sur trouver des joueurs pour
c'est ça l'affaire. Là,
Je vous sors une question, le champ gauche. Là. Tu parles de Gallagher, puis je pensais beaucoup à ça. Est-ce que vous voyez la possibilité, éventuellement, d'un Gallagher, je ne dis pas maintenant, là, mais peut-être l'année prochaine ou l'année suivante, il se retrouve dans les ligues mineures puis qu'il finisse ce contrat-là?
Ligue mineure?
Dans la Ligue américaine. Parce qu'il y en a eu des gars qui ont signé des gros contrats, puis finalement, c'est qui était avec les Stars?
Je pense qu'on va lui donner
James Neal. L'année passée, là, il était en finale de la Coupe Calder, je ne me trompe pas.
Exactement.
Carl Osner, mais Osner, à un moment donné, il a été racheté, mais est-ce que...
Sheldon Surrey a fini sa carrière en faisant du boss là, entre Utica et...
Moi, je vois pas ça. Dans le sens que Gallagher, premièrement, là, on va s'entendre que chaque équipe a des mauvais contrats. Puis chaque équipe va avoir des mauvais contrats. Mais je suis capable de vivre avec un mauvais contrat pour un gars qui s'appelle Gallagher. Parce que c'est un bon coéquipier, c'est un gars qui amène la culture que tu veux, et puis oui, c'est un mauvais contrat. Il va devenir un mauvais contrat, mais je suis capable de vivre avec ce genre de mauvais contrat-là à cause du genre de gars qu'il est, puis qu'est-ce qu'il apporte dans cette équipe-là, dans la chambre et sur la glace.
C'est juste qu'il en reste longtemps. Ça, c'est le problème.
Exact. Mais tu sais, c'est drôle, pendant un voyage dernièrement, j'ai croisé, je ne nommerai pas parce que c'est une conversation anonyme à bâton rompu, mais j'ai croisé un joueur là, québécois de la Ligue nationale, puis bon, d'une autre équipe, on jasait tout ça. Et lui, c'est de ses observations, justement, de dire, si je suis pour avoir un mauvais contrat, aussi bien que ce soit lui, puis regarde, au moins, il fait, tu sais, oui, peut-être que ça a de l'air, c'est pas idéal, mais
ailleurs,
il te fait pas mal, tu sais. Dans le vestiaire, il est correct, tout ça, puis tu sais, c'est quand même des choses auxquelles il faut penser, là, tu sais, mais oui, c'est vrai que, tu sais, t'as 4 autres années à 6,5 millions après cette saison.
C'est incroyable. Puis quand c'est arrivé, là, je ne vais pas faire mon smart maintenant, mais je me souviens que quand ça s'est arrivé, là, j'étais parmi ceux qui disaient pardon.
Ouais.
Parce qu'on savait bien. Mais c'est juste pour des raisons physiques, parce que Gallagher, à cause de son style de jeu, c'est bien clair qu'il n'allait pas jouer jusqu'à 45 ans. Fait que je ne sais pas à quoi on a pensé, mais tu sais, ça fait partie, je pense, des défauts de l'administration précédente de tomber en amour avec des joueurs de soutien.
En fait, c'est qu'il a obtenu le même contrat que Chris Kreider avait obtenu là, quelques mois plus tôt. À ce moment-là, les deux avaient des productions offensives similaires, mais c'est ça, c'est là que les comparaisons s'arrêtent. Là. Chris Kreider, c'est un 6 pieds 2, 220 livres qui est en pleine santé,
rapide.
Qui est rapide.
Qui n'a pas été aussi magané.
Exact, c'est ça, exact. C'est là.
OK, on va faire une petite pause, puis on va faire le tour de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale. Alors, nous voilà de retour, et puis on peut effectuer certaines observations de bilan de mi-saison, on pourrait dire, dans la Ligue nationale. On peut pas faire autrement que de commencer avec les Bruins de Boston, qui connaissent une saison incroyable. Parce que c'est 32-4-4 présentement, de mémoire, là. Écoute, c'est des chiffres qui nous font penser aux Canadiens des années 70. Là, les records de 72, je crois, non.
76.
8 défaites.
Très, très, très impressionnant.
Exactement. Donc, parle-moi-en un petit peu, Stéphane, de ce que les Bruins sont en train de faire présentement avec un gars comme Pastrnak à la tête de l'équipe là, qui a 32 buts déjà cette année. Là.
Ben, les Bruins, on va commencer tout d'abord, et puis il faut commencer tout d'abord par le gardien de but, le joueur le plus important.
Bon, ça y est.
Et puis,
ça y est.
Quelle saison. Premier dans la moyenne de buts contre, premier dans la moyenne d'efficacité, premier dans les victoires. Une saison incroyable. Bien entendu, c'est le noyau, la culture, le leadership de cette équipe-là avec les Bergeron, Marchand, Pastrnak, Coyle, Tyler Hall, Nick Foligno, un joueur de quatrième ligne, mais qui est un capitaine ailleurs, Krejci, il y en a à tonnes des leaders avec une bonne culture, des bonnes habitudes, des gagnants, et puis aussi, il faut mentionner Jim Montgomery qui fait tout un ouvrage. Donc, tu mets tout ça ensemble, ça fait la saison que les Bruins ont et quelle saison.
C'est pour ça que je suis surpris, tu parles de culture. Je suis tellement surpris que ce soit eux qui aient levé la main pour embaucher, comment il s'appelait, là? Mitchell Miller. À leur crédit, ils sont virés de bord rapidement, puis ils ont dit, oups, OK, excusez-nous, on avait prononcé le mauvais nom, mais
il est arrivé la même chose hier à Montréal.
Oui, ben, c'est ça.
Exact.
C'est Gabriel Gervais. À appeler à Boston. Vous avez fait quoi avec le gars finalement là? Ah c'est ça, ok, c'est bon.
C'est, mais c'est rare, sérieusement, c'est rare que Boston se trompe, hein. Puis là, ben, eux, en tout cas, encore une fois, ils ont effacé leur propre erreur, mais moi, c'est le repêchage que je retiens, c'est la sélection des joueurs. Quand vient le temps de trouver un joueur, Boston rarement se trompe. Tu parlais des gardiens de but tantôt. Il y a quand même eu au cours des années, du côté des Bruins de Boston, on a fait des changements et on s'est pas trompé. En défense, il y a du monde qui sont partis, on s'est pas trompé. C'est surprenant, ça. Et ça, mais tu sais, ça devrait donner plus de coupes Stanley, par contre.
Il y en a quand même une coupe et une finale, c'est quand même pas si mal. Dans notre époque d'aujourd'hui, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Moi, celui qui m'étonne dans ce club, tu sais, oui, Pastrnak, Bergeron, Marchand, tout ça, on en parle, c'est correct. Mais David Krejci, moi, j'avoue que j'avais pas beaucoup d'attentes pour lui. Regardez, tu sais, il est rendu à 36 ans quand même, va avoir 37 ans à la fin de la saison. 31 points en 35 matchs, là, pour un gars de ce âge-là, qui vient d'aller jouer
qui
un an.
Qui est supposé être un joueur de soutien.
Qui vient d'aller jouer un an en République tchèque en
qui
plus.
Revient.
Moi, tu sais, je trouve que de toutes les surprises dans ce club-là, tu sais, oui, Linus Hallmark, t'en parlais, Stéphane, c'est vrai que c'est une certaine surprise, c'est qu'il en vienne à être l'or à cet âge-là, mais que David Krejci maintienne ce niveau de performance-là, puis il leur donne presque 18 minutes par match aussi de temps d'utilisation. Donc, c'est peut-être.
Mais c'est la qualité de ces vétérans-là. C'est incroyable. C'est des gars qui acceptent pas des demi-mesures. C'est des gars qui vont passer le message dans la chambre. Quand on parle de leadership et de culture, là, c'est Bergeron, on parlait du fameux kid qu'on a signé cet
Mitchell
hiver.
Mitchell Miller.
Bergeron était le premier à dire que ce kid-là, il fitait pas dans la culture des Bruins.
Ouais.
Donc, c'est incroyable.
Les gars, on va rendre hommage cette fin de semaine. En fait, jeudi soir à Piqué Souban, lorsque les Prédateurs de Nashville vont visiter le Canadien de Montréal. Normalement, quand le Canadien rend hommage de cette façon-là, tu sais, c'est pas un joueur qui revient, qui est toujours actif, à qui on fait un beau vidéo, puis il y a une belle main d'applaudissement entre deux pauses commerciales ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on l'amène ici, on va lui rendre hommage. C'est un peu spécial. Je me souviens pas de la dernière fois qu'on a fait ça pour un joueur récent de l'organisation du Canadien. Ça a été quoi votre première réaction lorsqu'on a annoncé ça? Et qu'est-ce que ça vous dit?
Ben moi, ça a été le joueur. Tu sais, ça a quand même été le visage, puis je le dis, là, Carey Price était là, mais pour moi, le visage de cette équipe-là, pendant ces années-là, c'était lui. Hein. Mm. Pour moi, c'était ça. Là. Et je parle pas seulement, évidemment, il y a eu son jeu sur la glace, il y a eu évidemment tout ce qu'il a fait dans son implication communautaire, et c'est pas scientifique, mais le nombre de chandails 76 que je voyais dans les gradins,
c'est sûr.
C'était, pour moi, c'était lui le visage de l'équipe, puis... Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? » Écoute, il a gagné un Norris. Je veux dire, c'est qui le dernier joueur du Canadien à gagner un Norris avant Piquet Subban? On recule à Chris Chelios en 89, là. Donc, ça faisait très, très longtemps. Et malheureusement, ça a été bref. Mais le temps que Piquet Subban a été ici, je pense qu'il a marqué une génération. C'est ça qui est arrivé, là. Et bravo, je pense, à la direction du Canadien de reconnaître ça. Il a vraiment marqué une génération pour tout ce qu'il a fait.
C'était le joueur, tu sais, je pense que quand il marquait des buts, on avait l'impression que c'était pour lui, que ça, c'était les buts de Subban ou qui généraient les plus fortes réactions aussi dans la foule. Tu sais, c'était ce genre de joueur-là qui avait ce charisme-là sur la patinoire là, pour tu sais, quand il y avait la rondelle, quand il embarquait ça. En fait, pas juste quand il y avait la rondelle, parce qu'il était aussi capable de donner la grosse mise en échec à l'entrée de zone à la ligne bleue. Donc, tu sais, de
allô, Brad Marchand?
Oui, exact. Donc, de toutes les façons possibles, il était spectaculaire. Puis c'est sûr que ça détonnait, surtout dans une organisation où justement les joueurs spectaculaires au fil des ans, on peut pas dire qu'on a été très, très gâtés. Puis ben l'autre chose, c'est sûr qu'avec une nouvelle administration, ben ça permet également de, si on veut, de terminer la réconciliation, si on veut, entre Subban et l'organisation, sachant que ça avait fini un petit peu tout croche entre les deux. Donc, tu sais, là après ça, il y a des discussions qui seront éternelles, là, ben, notamment, puis on l'a eu ici il y a un mois, mais bon, l'éternelle discussion sur la transaction et qui l'a gagné, tout ça, ça s'en ira pas. Mais c'est quand même une façon pour la nouvelle administration de clore le chapitre, là, disons, de la bonne façon. Donc, je pense que les fans vont être contents. Puis regardez, si le Canadien livre une performance comme celle d'hier soir, ben au moins les gens qui auront payé leur billet vont avoir eu quelque chose quand même dans leur soirée.
Sais-tu quoi? J'ai eu des textos de gens qui m'ont dit je me suis acheté des billets pour ce match-là parce que je voulais être là pour ça. Donc, si c'est juste pour vendre des billets, ça aurait été un succès parce que je pense qu'il va y avoir plus de monde qu'anticipé ou peut-être que les prix des billets vont augmenter à la revente à cause de Piqué. Mais Stéphane, est-ce que tu aurais pu anticiper au moment où Piqué avait quitté qu'on lui rendrait hommage un certain nombre d'années plus tard?
Non, pas vraiment. J'avais jamais prévu ça pour une simple et belle raison. C'est que Piqué, il n'a pas joué beaucoup d'années à Montréal. Là. Je pense que c'est 5 saisons.
6 ans.
C'est pour 6 ans. Donc, tu sais, on a tellement de joueurs qui ont joué à ce compte-là, mais on va voir. Faut fêter Mario Tremblay. Il faut fêter Doug Ricebrough. Faut fêter.
C'est pas des gens qui ont marqué leur génération.
Mais c'est
là.
Ça. Mais c'est là où je m'en viens. C'est que Piqué. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est l'homme, c'est le personnage, c'est l'implication sociale qu'il a faite au Québec. C'est ce qu'on honore, c'est ce qu'on fait, c'est parce que c'est le joueur de hockey, oui, il était bon. Oui, il a apporté de quoi à Montréal, mais il n'a pas marqué l'histoire du Canadien de Montréal sur la glace. Il a marqué quelque chose par l'être qui est l'homme, qui est le, comme je disais tantôt, le personnage et surtout tout ce qu'il a amené socialement. À Montréal. Donc, c'est ça qu'on fête. Puis là-dessus, j'ai zéro problème. Au contraire, ça va être le fun de le voir. Je suis certain, connaissant Piqué, qu'il doit être très, très excité.
C'est sûr.
À l'idée de venir passer 2-3 jours à Montréal où ce que attachez vos trucs là, on va le voir piquer partout.
C'est sûr.
Et puis ça va être le fun pour les fans.
Mais en tout cas, moi, ça me démontre un Canadien de Montréal nouveau. Parce que à l'époque, là, avant que l'organisation revienne puis dise on va rendre hommage à un gars qu'on a sacré dehors un petit peu en catastrophe, juste quelques années plus tard, on va y rendre. D'habitude, là, ça pouvait arriver, mais c'était souvent plusieurs années plus tard. C'était pas.
On s'entend que si Marc Bergevin est encore ici,
ça n'arrivera pas. Parce que là, quand on dit l'organisation, ce qui reste de l'organisation des années souvent, à part le proprio,
il
n'y
reste plus personne.
Pas grand-chose.
C'est vrai, en effet. Bon, ben écoutez, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Très apprécié encore une fois pour cet autre épisode de Sortie de Zone. Stéphane Wade, Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, on remet ça un peu plus tard cette semaine. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous écoutent et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Et on se retrouve sans faute dans quelques jours. Ici Jérémy Filosa qui vous dit bonne semaine à tous.